Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Crozat et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Crozat, vous êtes sur la radio Graphite 94.9 ou graphite.net. Et donc, aujourd'hui, cet après-midi, les étudiants du cours WE1 de l'UTC vont vous faire une restitution de leur projet. Donc, le cours WE1 signifie écrire sur le web. Donc, voilà, les étudiants ont travaillé sur une thématique liée au web par groupe. Et donc, pour cette première intervention de l'après-midi, je suis avec Martin Albourg. Bonjour Martin.
Bonjour.
Clara Alvado, bonjour Clara.
Bonjour.
Mathieu Tivera, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et Johan Collet-Adam.
Bonjour.
Bonjour à toi. Ce groupe de 4 étudiants et étudiantes a travaillé sur la thématique du web et de la soutenabilité. Alors ça tombe bien, c'est un hasard, mais ça tombe bien, puisque le cours d'aujourd'hui, juste avant, portait justement sur une thématique tout à fait proche. La semaine dernière, on a entendu parler d'IA conviviale, d'intelligence artificielle convivial, et voilà, si vous restez à l'antenne, vous découvrirez les autres thématiques de l'après-midi. On parlera probablement de responsabilité sociétale, d'association un petit peu plus tard. Mais donc, on est prêt ici à côté de moi, eh bien, je propose de passer la parole à Martin pour attaquer par une partie introductive et il nous fera l'annonce de plan à la fin. Martin, tu as la main si c'est bon pour toi.
Ouais, aujourd'hui on va parler du web et de dématérialisation. Le web, c'est un outil qui a vu le jour dans les années 90. On le sait à peu près tous, hein, mais il a quand même révolutionné le monde. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser, comme je l'ai dit, à l'aspect dématérialisation qu'il a induit. Pour commencer, je vais donner une définition un peu formelle de la dématérialisation. Donc, c'est le fait de c'est un processus de transformation par lequel de nombreuses activités qui étaient à la base traditionnellement réalisées dans le monde physique et en fait qui sont maintenant effectuées en ligne sur Internet. Permettant leur stockage, leur traitement et leur distribution sur des supports numériques. Pour que vous puissiez comprendre un peu mieux, on peut citer quelques exemples de dématérialisation qu'a pu permettre le web. Parmi d'autres, hein, les achats en ligne, le télétravail, les divertissements en ligne, tous les jeux vidéo, etc. La communication, on peut parler du mail, des chats qu'il y a maintenant sur nos téléphones, etc. On peut aussi parler du service bancaire. Cette dématérialisation, en fait, elle relève en partie d'un mythe. Et nous allons, à travers cette intervention, vous exposer en quoi ce mythe qui entoure le web est un problème, et un problème notamment au niveau environnemental. Cette dématérialisation est en effet vue comme un excellent moyen de faire face aux enjeux environnementaux et comme une solution plus soutenable au transport, par exemple, ou autres facteurs d'émission de CO2. On peut prendre l'exemple du télétravail dont je parlais tout à l'heure. En effet, donc l'ADEME, qui est, je rappelle, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a mené une expérimentation de 5 mois, donc de novembre 2022 à mars 2023, qui a concerné 10 bâtiments répartis dans différents contextes, urbains, périurbains, en campagne, etc., dans différentes zones climatiques, et qui a concerné 100 agents, donc télétravailleurs, tous volontaires. La consommation des sites de bureau, du domicile des agents, donc en électricité et en gaz, et de leur transport, a ainsi été suivi pendant ces 5 mois. Et les premiers résultats montrent que le bilan énergétique du télétravail est positif, et même très positif lorsqu'il est bien organisé. Et lorsqu'il s'accompagne de la fermeture d'un site sur plus de 48 heures, le potentiel global se situe entre 20 et 30% d'économie énergétique sur une journée, donc toujours selon l'ADEME. Et donc selon eux, la conséquence d'un télétravail à la maison, les conséquences pardon, sont très faibles dans les logements. Quand je dis très faible, c'est le retour, donc on travaille, le fait de ne plus travailler en entreprise mais chez soi apporte un gain énergétique. Donc la critique qu'on peut faire de cette étude, c'est le fait que la consommation énergétique liée à l'utilisation du web et à tout ce qui est nécessaire pour travailler de chez soi, donc les plateformes d'appel vidéo par exemple, elle n'est pas évoquée dans cette étude. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas prise en compte par l'ADEME, mais en tout cas, les personnes qui iront lire cette étude ne se rendront pas compte de l'impact que peut avoir le web. Donc l'ADEME présente à travers cette étude les avantages du télétravail, certes, mais pas les coûts environnementaux du web qui permet le télétravail. Et ce qu'elle fait dans d'autres études, certes, mais encore une fois, si une personne va sur, sur cette page web de l'étude, il ne se rendra pas compte de l'aspect coût environnemental, coût énergétique du web. On peut prendre aussi un exemple concret et proche de nous, les étudiants de WE1. C'est celui des serveurs créés sur Gandhi.net. En effet, dans le cadre de l'UV, nous avons dû créer des serveurs pour stocker et publier nos recherches sur le web. Cependant, certains d'entre nous n'ont jamais fermé leur serveur. Certains serveurs sont donc restés ouverts pendant plusieurs semaines sans aucune utilité. Donc ça, c'est une perte économique dans un premier temps, car la location de serveurs, ça a un coût. Et dans un second temps, ça a un impact écologique. C'est assez compliqué d'avoir une mesure exacte que cela a coûté, mais il est certain que nous avons consommé des ressources énergétiques, et ce, comme je l'ai dit, inutilement. Donc tout cela pour dire que nous-mêmes qui cherchons pendant, j'ai envie de dire, tout un semestre à démonter ce mythe, nous avons laissé ces serveurs tourner parce qu'on oublie facilement, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont invisibles à nos yeux. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'immatérialité dans ce contexte. La question que nous proposons de poser est donc en quoi le web est-il matériel ? Et en conséquence, nous nous demandons en quoi est-il soutenable ? Donc c'est la question que se pose Benoît Elbrun, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est professeur en marketing à l'ESCP Europe, dans la vidéo intitulée « Les fantasmes de la dématérialisation numérique du monde » que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Xerfi. Xerfi Canal, qui est un institut d'études privées. Donc voilà, ce professeur est spécialisé dans l'analyse économique sectorielle en France et à l'international.
Upload UTC. Et oui, voilà pour une petite blague, et c'est parti pour l'extrait.
L'économie numérique nous confronte, il est vrai, à des photos ou vidéos que l'on regarde ou télécharge et dont on peut avoir l'illusion qu'elles se situent nulle part. Comme si cette présence sensible de l'image pouvait s'abstraire de supports matériels. Ce fantasme d'une économie de l'expérience qui se serait débarrassée de la crasse, du charbon et du fer de l'époque industrielle sous-tend l'idée d'un monde plus propre, plus sobre et fondamentalement meilleur. C'est oublier que le cuivre, le verre, le béton ou le silicium sont la matière même de la dématérialisation. Qu'il s'agisse de fabriquer un appareil photo, de fixer une image sur un support stockable ou d'envoyer une photo, il est nécessaire de disposer de verre, de plastique, de câbles métalliques, etc. Et contrairement à ce que pensent certains, les données disponibles sur Internet existent bien quelque part stockées sur des plaques de silicium.
Voilà, donc à travers cet extrait, Benoît et Brun nous explique donc bien que le web n'est pas qu'un outil révolutionnaire qui permet aux gens de travailler sans prendre la voiture, etc. Mais bien un ensemble d'objets physiques qui nécessitent donc d'être produits, entretenus et qui eux-mêmes ont une consommation énergétique. À cela, on peut ajouter la citation d'Alexandre Monin, professeur à l'ESC Clermont Business School, en redirection écologique et design. Dans le livre « Écologie du smartphone » de Laurent Salard, Nicolas Nova et donc lui-même, dans cette citation, il compare l'immatérialité du web à la monnaie. Donc je vais vous lire cette citation. Dans cette présentation, nous tâcherons d'analyser le numérique en son caractère le plus abstrait, non pour en nier la matérialité de mieux en mieux appréhendée, mais au contraire pour la saisir sous le double aspect de l'abstraction et de ses conditions matérielles. L'abstraction matérielle, c'est aussi une manière de qualifier la monnaie, ouvrant sur une comparaison possible entre le numérique et cet artefact sémiotique. Donc ce que je comprends de cette citation d'Alexandre Morin, c'est qu'il compare donc l'aspect immatériel du web à celui de la monnaie. En effet, la monnaie, c'est un exemple parfait pour parler de matérialité et d'immatérialité. C'est pas quelque chose de physique en soi, hein, quand on parle de la bourse par exemple, ou voilà, ça n'existe que par les chiffres. Dans le cas de la monnaie, le but de créer une représentation physique, donc les billets et les pièces, c'est en partie pratique pour pouvoir se l'échanger dans les magasins, etc. Et je dirais que c'est une situation un peu inverse à celle du web. Dans un cas, on a donc une matérialisation, on matérialise quelque chose d'immatériel pour lui donner un sens visible, et dans l'autre, on a un système matériel, donc celui du web, qui a été totalement oublié pour ne garder que l'aspect virtuel et invisible. Donc le web a une dimension matérielle qui a un impact écologique sur le monde, comme toutes les autres technologies humaines, et cela n'a rien d'immatériel. Donc dans la suite de cette intervention, nous discuterons de certains des enjeux majeurs concernant le web et son utilisation. Nous étudierons son développement fulgurant et les conséquences que cela apporte. Puis nous vous montrerons l'impact environnemental et humain des interfaces du web. Donc je vais laisser Clara nous parler du développement du web et les conséquences que ça a sur le monde.
Donc du coup, pour expliquer mieux cette partie, je vais m'appuyer sur le livre de Fabrice Flippot, L'impératif de la sobriété numérique, qui aborde la trajectoire écologique ainsi que les dérivés alarmants du web et qui va être donc du coup un point d'appui pour mon intervention. Premièrement, il faut comprendre les défis liés à l'essor du numérique. Donc en 10 ans seulement, la consommation du numérique a doublé, cite Fabrice Flippot dans son livre. Des smartphones aux tablettes, le numérique s'est infiltré partout, transformant nos interactions sociales, notre manière de travailler et même la façon dont nous faisons nos achats. Chaque année, 300 000 tonnes de smartphones sont produites, équivalent à 30 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc c'est une expansion massive qui, selon Fabrice Flippot, exige une réflexion sérieuse sur notre mode de vie numérique. L'auteur met également en lumière le rôle central des smartphones dans le monde du commerce électronique moderne. Ce ne sont pas simplement des gadgets, mais des acteurs clés dans nos habitudes d'achat en ligne. Les statistiques du baromètre du numérique en France, en 2019, révèlent que 77% des Français sont désormais propriétaires d'un smartphone, une augmentation significative de 2% par rapport à l'année précédente. Encore plus frappant, 94% des détenteurs de smartphones les utilisent quotidiennement, ancrant ainsi ces appareils au cœur de notre vie quotidienne. Selon lui, les 4 secteurs clés de la numérisation sont la télécommunication, l'audiovisuel, la télématique et l'industrie des logiciels et de la logistique. Avec l'essor du commerce en ligne, des géants tels qu'Amazon occupent une place prépondérante. L'auteur décrit Amazon comme un GAFAM paradigmatique. Cela veut dire que parmi les grandes entreprises technologiques, donc Google, Apple, Facebook, Amazon est considéré comme un modèle emblématique qui influence à la fois les consommateurs en ligne, donc une façon de voir les choses immatériellement parlant plutôt, ainsi que les flux de transport. Le secteur logistique, bien qu'il soit peu connu, est en fait crucial dans l'essor du web, car l'idée de Fabrice Flipeau est que la dématérialisation pousse les utilisateurs à acheter en ligne. Pour un exemple plus concret, on pourrait citer le canal Seine-Nord Europe, initié à Compiègne, qui permet d'ouvrir une voie pour les transports de bateaux de fret fluvial. C'est une partie du secteur logistique qui souligne l'importance des trafics par voie maritime et qui montre aussi la consommation de nos jours. Toutefois, de nombreuses controverses se font autour de ce projet, notamment sur la ressource en eau, d'après l'extrait du rapport Césaire. Pour mieux comprendre l'essor du numérique et ses conséquences, voici un extrait d'un passage de Fabrice Flipeau sur une émission de radio en 2020, donc sur Radio France.
C'est ça. Toute la difficulté quand on fait de la prospective, c'est d'arriver à faire des hypothèses sur l'avenir qui soient, disons, pas trop éloignées de ce qui pourrait se passer. Et le rapport du CGE, disons, prend acte d'un certain nombre d'usages et de pratiques du numérique qui sont bien installés, mais il met en garde contre des pratiques émergentes, et précisément c'est sur ces pratiques émergentes que je pointe le doigt.
Alors il y a déjà quelque chose d'intéressant dans ce rapport, c'est qu'il calcule l'ampleur du parc numérique français, hein, donc avec le nombre exactement de smartphones en service, de millions d'ordinateurs, de téléviseurs, de tablettes, de millions de box. Il y a 61 millions de smartphones, hein, par exemple, en service. Est-ce que ces chiffres vous semblent bons, exacts, ou est-ce qu'il faut les nuancer aujourd'hui ?
Oui, si, ils semblent exacts. Alors après, la difficulté, c'est que bon, c'est toujours des approximations. Hein. On fait de la physique et pas des mathématiques. Donc, il y a une diversité de sources statistiques à recouper.
Alors que le secteur du web évolue à une vitesse vertigineuse depuis 2010 et que de nombreux rapports sont créés sur l'impact écologique, Flipeau pointe du doigt les différents rapports tels que Smart 2020 et Smart 2030. Ces rapports proviennent de la Global e-Sustainability Initiative, qui réunit environ 35 entreprises du secteur des technologiques de l'information et de la communication, qu'on nomme souvent les TIC. Bien qu'officiels, ces rapports minimisent l'empreinte écologique du numérique, le sous-estimant à seulement 1,6%. Un chiffre qui est en net décalage avec les estimations scientifiques, plus alarmantes, qui tournent aux alentours de 4%, explique Mathieu Ozano, directeur général et auteur du rapport The Shift Project. Cette forme de déni de l'impact du numérique est en lien avec le mythe de la dématérialisation. Le mythe de la dématérialisation, c'est croire que le passage au numérique fait baisser l'impact écologique dû en fait à une baisse des supports matériels, donc le papier, le carton, les clés USB, etc. En fait, avec des rapports souvent biaisés, les consommateurs ne peuvent pas comprendre l'impact écologique et selon Flipeau, je cite, « l'arrivée du numérique n'a pas suscité d'investissement énergétique massif et visible ». En résumé, les consommateurs peuvent ne pas être conscients des investissements énergétiques massifs associés au numérique en raison de sa nature moins visible. En effet, les flux numériques sont devenus invisibles, explique François Chamorro dans l'article de La Ligue publié en 2020. Notamment depuis 2006, avec la création, par exemple, du cloud computing. Avant cela, on avait besoin d'utiliser des systèmes physiques plus imposants pour stocker et gérer des données, comme des disques durs pour les utilisateurs. Les interfaces physiques nécessaires au fonctionnement du web demeurent souvent cachées, loin des regards, dans des endroits éloignés du quotidien de ses utilisateurs. Par exemple, on peut prendre donc du coup les câbles sous-marins, qui ne sont pas visibles, mais qui permettent 99% de la communication, selon Eurafibre. Ainsi que les centres de données situés dans des endroits souvent peu attractifs, dans les zones industrielles loin des grandes villes. Comme par exemple à Wissous, une petite ville près d'Orly qui accueille un centre de données d'Amazon, explique le journal Libération posté en 2023. En résumé, le mythe de la dématérialisation donne l'idée fausse d'une transition numérique écologique, en fait en cachant les réalités physiques du fonctionnement du web et ainsi en minimisant son véritable impact environnemental et humain. Cet impact se manifeste directement, donc à travers les infrastructures qui font fonctionner le web, telles que les réseaux, les serveurs et les terminaux, mais peut aussi se manifester de manière indirecte, donc en influençant les choix de consommation et en incitant à acheter et construire davantage pour soutenir l'expansion numérique. Donc, une démystification doit être faite afin que l'invisible devienne concret et palpable. Donc je laisse la parole à Mathieu.
Alors voilà, contrairement à ce que laisse penser le mythe, il n'y a rien d'immatériel dans le web. Son existence et son fonctionnement sont possibles grâce à des systèmes physiques bien réels. On peut citer les câbles, les serveurs, les routeurs et puis les terminaux que sont nos téléphones, nos ordinateurs. Ces systèmes ont un impact environnemental et humain qui commence dès le stade de fabrication. Un téléphone portable avec écran tactile et dispositif photo-vidéo est composé d'une cinquantaine de matières premières différentes.
Ces matériaux sont souvent des ressources naturelles limitées, dans lesquelles l'industrie numérique vient puiser, parfois jusqu'à la pénurie. Les procédés d'extraction et de transformation sont aussi polluants. En Chine, l'exploitation du néodyme, composant des haut-parleurs de nos smartphones, génère des rejets d'eau, acides et des déchets chargés en radioactivité, ainsi qu'en métaux lourds. L'extraction du lithium, présent dans nos batteries, est également fortement impactant. Il faut 200 millions de litres d'eau pour obtenir une tonne de lithium. Les impacts sont donc multiples sur l'environnement et la biodiversité. Au Congo, dans les mines de cobalt, utilisées dans les batteries et les cartes mères, c'est l'impact humain qui pose problème. L'extraction est faite par des enfants qui minent, on les appelle les creuseurs, obligés de sacrifier leur santé pour gagner de quoi manger. Selon l'UNICEF, plus de 40 000 enfants travailleraient dans les mines de la République démocratique du Congo, dont beaucoup dans les mines de cobalt dont on a parlé. Voilà donc un exemple de l'impact qu'a le web, un impact invisible pour nous les Occidentaux. Pour finir sur la fabrication, l'ADEME estime que cette étape représente à elle seule 78% des émissions de gaz à effet de serre totales du numérique. Donc cette fabrication a un impact considérable et vient ensuite la mise en service des systèmes, leur utilisation. Écoutons donc Guillaume Pitron, auteur d'un livre nommé « L'enfer numérique ». Pitron nous parle ici du chemin de l'information sur le web. Nous sommes en 2021 dans l'émission « Empreinte écologique » de la chaîne Public Sénat.
Si je devais raconter, qu'est-ce qui se passe si je vous envoie un SMS à vous, monsieur le sénateur, oui. Ou à vous, oui. Quelle est la route de ce SMS ou de ce like ou de cette vidéo, oui. Et en fait, la notification va traverser la planète. En fait, elle va parcourir des milliers de kilomètres, passer par des centres de stockage de données, des câbles sous-marins, peut-être des satellites. Si on en croit les ambitions d'Elon Musk, des antennes 5G, enfin surtout 4G, demain peut-être 5G, des box. Et donc en fait, si je vous envoie un like, eh bien en fait le like, il va pas faire 3 mètres la distance entre vous et moi, il va faire des milliers de kilomètres. Et donc ça permet de prendre conscience que on est en train de déployer ce qui est déjà à mon avis la plus vaste infrastructure spatiale, sous-marine, terrestre, que l'homme n'ait jamais édifiée de l'histoire de l'humanité pour avoir nos vies connectées. Et donc il y a une matérialité de ce monde virtuel avec les impacts écologiques, ouais, qu'on vient de mentionner.
Alors voilà, Guillaume Pitron montre bien que le web, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est basé sur l'interopérabilité de beaucoup d'interfaces tout autour du globe. L'information peut passer par des câbles, des serveurs, des routeurs, avant d'arriver sur nos terminaux. Mais tout ce réseau doit être alimenté en électricité pour fonctionner. Le serveur, par exemple, est un élément très énergivore. Selon sa capacité, il peut consommer entre quelques centaines et quelques milliers de watts. Alors souvent, on regroupe les serveurs dans des data centers, des centres de données. Mais un serveur en fonctionnement génère de la chaleur. Et lorsque la température ambiante dépasse les 30 degrés, le serveur perd des performances. Alors on refroidit les data centers pour optimiser l'utilisation des serveurs. Et ce refroidissement, on le fait bien souvent à l'aide de pompes à chaleur, un dispositif coûteux en électricité. On estime que le refroidissement représente entre 30 et 40% de la facture énergétique des data centers. Alors la somme de tous les data centers représentait en 2017 déjà 3% de la consommation électrique mondiale. Alors on comprend qu'il faut beaucoup d'électricité pour faire fonctionner les interfaces du web, mais cette électricité, elle a potentiellement un impact environnemental en fonction de son origine. En Chine, par exemple, les data centers utilisent de l'électricité venant à 73% du charbon. Alors l'alimentation électrique des interfaces du web a un impact environnemental. On rappelle que la fabrication représentait 78% des émissions, l'utilisation en représente donc 22%. Dans sa globalité, le web a un impact écologique et humain bien concret. Il est bien loin d'être l'environnement immatériel et invisible que l'on s'imagine. On peut donc dire que le web tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas un environnement soutenable. Je passe maintenant la main à Johan, qui va vous présenter deux solutions technologiques récentes visant à rendre le web plus soutenable.
Donc pour imaginer les changements nécessaires à un web soutenable, nous nous sommes appuyés sur les études de l'ADEME. et notamment sur les scénarios qu'elle a proposés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous allons explorer deux solutions technologiques proposées actuellement, s'articulant autour de deux de ces scénarios, technologie verte et Paris réparateur, qui misent sur une croissance du numérique. La première piste répondra aux problèmes liés à la fabrication et la seconde à l'utilisation des terminaux numériques. Elles seront toutes deux accompagnées d'une critique. Regardons d'abord comment rendre la fabrication des équipements plus écologiques. Les analyses de cycle de vie des TIC, comme le rapport en 2023 de l'ADEME et de l'ARCEP sur l'empreinte environnementale du numérique, révèlent que la production représente environ les trois quarts des impacts environnementaux du numérique. Les TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit des smartphones et des ordinateurs, etc. Ainsi, pour améliorer l'impact environnemental de la fabrication des TIC, l'utilisation de matériaux alternatifs aux matériaux rares actuels est une première piste. Ces matériaux seraient extraits, fabriqués, utilisés et recyclés de manière à minimiser leur impact environnemental. Leur emploi contribuerait notamment à réduire la dépendance aux ressources non renouvelables telles que les métaux rares. Par exemple, en octobre 2023, le RS2E, Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, du CNRS, coordonné par le professeur Tarascon, commercialise Tiamat, des batteries plus durables et plus rapides à recharger. Ces batteries fonctionnent au sodium en s'affranchissant du lithium et du cobalt, deux ressources rares et coûteuses. D'après l'Institut des terres rares et des métaux stratégiques, le sodium pur est produit en grande quantité par électrolyse du chlorure de sodium et le chlorure de sodium est obtenu par évaporation de l'eau de mer. Il s'agit du métal léger le moins cher. Les batteries développées par le CNRS ont une durée de vie de 10 ans, contre environ 3-4 ans pour les batteries lithium, et se rechargent jusqu'à 10 fois plus vite. Et ce, à coût équivalent aux technologies basées sur le lithium et le cobalt. Il s'agit donc d'une alternative plus écologique, plus économique et plus fiable. Tiamat est pour l'instant une batterie de tournevis commercialisée il y a un peu plus d'un mois. Il s'agit d'une première étape pour révolutionner le monde des batteries. Et RS2E envisage de construire leur première usine d'ici 2025 qui pourra produire plus de 500 000 batteries par jour et créer environ un millier d'emplois alors qu'ils sont actuellement qu'une vingtaine à travailler sur ces batteries. Toutes ces informations proviennent du site du CNRS. Passons à la deuxième amélioration qui concerne l'utilisation des systèmes. Les data centers sont un bon exemple puisqu'ils représentent 16% de l'empreinte carbone du numérique selon le rapport de l'ADEME et de l'ARCEP en 2023. On peut envisager la délocalisation des data centers proches de rivières pour bénéficier d'une eau courante, gratuite et infinie. Cette eau peut être utilisée à deux niveaux. Le premier consiste à produire de l'électricité grâce à une centrale hydroélectrique. L'hydroélectricité est une électricité dite verte, puisque sa source d'énergie est renouvelable. Cependant, il faut analyser le cycle de vie des centrales hydroélectriques pour s'assurer que pendant leur construction ou démantèlement, leur impact écologique ne soit pas catastrophique. Bernard Brusa-Pasquet explique dans Encyclopédie de l'énergie que, je cite, les phases de construction et de démantèlement ne peuvent pas être considérées comme propres et renouvelables car elles sont très gourmandes en béton ou en matériaux pour fabriquer les gros équipements comme les groupes turbines, les alternateurs, les vannes, etc. Donc, l'Encyclopédie de l'énergie est un site qui diffuse des connaissances expertisées et structurées indispensables à une meilleure compréhension de l'approvisionnement énergétique mondial. En 2017, Laurent De Wandre conclut dans le cadre de son master en sciences et gestion de l'environnement son mémoire sur l'analyse de cycle de vie d'une centrale hydroélectrique en disant que, je cite, « Par rapport aux énergies non renouvelables, on peut se réjouir du moindre impact de la centrale sur le potentiel de réchauffement climatique et de l'énergie primaire consommée. » Le second problème lié aux centrales hydroélectriques est leur impact sur la biodiversité locale. En 2020, le site Décrypter l'énergie, qui publie des articles dans le but de démystifier les idées reçues sur la transition énergétique, définit une centrale hydroélectrique comme un ouvrage qui barre un flux d'eau courante qu'elle modifie et ralentit. Ainsi, l'hydroélectricité est conditionnée en France par la loi sur l'eau et la protection des milieux aquatiques, la loi EMA. Ce texte oblige les exploitants à maintenir en aval des centrales hydroélectriques un débit minimum, garantissant le développement de la vie des espèces. Ainsi, EDF construit des ouvrages de franchissement pour les espèces piscicoles sur les barrages, afin que ceci ne soit pas un obstacle au déplacement de la faune aquatique. Le deuxième niveau de l'exploitation de l'eau concerne le refroidissement des data centers. Ainsi, pour réduire la consommation d'électricité liée au refroidissement, on peut utiliser l'eau froide de la rivière. Par exemple, le data center DC5, appartenant à Scaleway, utilise le refroidissement adiabatique. Nous allons voir ce que c'est dans l'audio qui va suivre. Cet audio est un extrait d'une interview donnée à 01Net de Arnaud Birmingham, patron de Scaleway.
C'est ce qu'utilisaient les Égyptiens, par exemple. Ils mettaient de l'eau dans une poterie et l'eau, en s'évaporant sur les bords de la poterie, refroidissait le contenu. C'est exactement le même concept. Donc, à quelques différences près. Parce que l'eau du robinet contient du chlore, contient du calcaire, contient du sodium. Elle contient plein de minéraux. Et ces minéraux, si on les fait évaporer dans l'air, ça provoque de la corrosion sur les serveurs. Par exemple, le chlore qui est contenu dans l'eau va se transformer en acide chlorhydrique mélangé dans l'air et donc peut provoquer des corrosions au niveau des équipements informatiques. Donc on a une production d'eau osmosée. Le but, c'est de produire l'eau la plus pure possible, que ce soit H2O et rien d'autre. Et cette eau est directement injectée en haut d'un panneau qui est fait en cellulose. C'est des bandelettes de papier qui sont humidifiées tout simplement. L'air passe au travers et l'air, en passant au travers, va faire évaporer cette eau qui est contenue sur ces bandelettes de papier. Et l'air, en passant au travers de ces bandelettes de papier, va perdre entre 8 et 10 degrés en moyenne.
Donc, comme expliqué dans l'audio, l'eau utilisée dans le système de refroidissement adiabatique doit être la plus pure possible afin d'éviter la corrosion, par exemple. On peut alors s'intéresser à la manière dont sont extraits tous les minéraux de l'eau. Selon Wikipédia, l'eau pure n'est pas présente dans la nature et pour en obtenir, il faut utiliser des techniques de purification sophistiquées. Après l'eau distillée, bidistillée, déminéralisée et déionisée, la technique progresse vers une eau de plus en plus pure, donc coûteuse à produire. On en conclut qu'il est compliqué d'obtenir une eau parfaitement pure et que par conséquent, les problèmes de corrosion sont inévitables sur le long terme. Il s'agit d'une technologie un peu trop récente pour avoir un avis précis sur la question de si c'est une bonne méthode ou non.
Eh bien, merci à tous les quatre de vos présentations. Pardon. Donc, on termine effectivement sur des descriptions bien matérielles, hein, quand tu nous parles des problèmes de corrosion et de relations ici entre les machines, l'environnement, l'eau, etc. On voit bien ces relations-là. Je pense que on les a appréhendées à travers vos différentes interventions. Alors, j'ai relevé trois, quatre questions. Donc, on va peut-être démarrer. Allez, je commence un petit peu au hasard. Là, il y a une question de Clément. Est-ce que Clément nous demande dans quelle mesure les batteries, des batteries plus écologiques, donc vous avez évoqué par exemple les batteries au sodium, pourraient remplacer celles des smartphones ou des voitures. Peut-être en relation avec cette question, j'ajouterais. Que dans le scénario de remplacement par le sodium que vous avez évoqué, ça paraît un peu magique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un truc là moins cher, moins impactant, plus disponible, etc. Et en parallèle, on apprend en ce moment qu'il y a des mines de lithium, de nouvelles mines de lithium qui s'ouvrent en France. Donc voilà, est-ce que vous avez des éléments autour de tout ça? Est-ce que c'est parce que c'est pour ménager en quelque sorte plusieurs filières ou est-ce qu'il y a des différences de performance? Est-ce que vous avez des éléments autour de cela?
Effectivement, c'est une technologie très récente, donc en fait il n'y a pas d'études encore sur le sujet. Cependant, cette technologie fonctionne bien sur les petites batteries, donc des batteries pour des perceuses. D'ici quelques années, ils envisagent de faire principalement des batteries pour les voitures, puisque dans les voitures, on veut... Pour les voitures électriques, on cherche à obtenir des charges plus rapides. C'est un des gros problèmes des voitures électriques en tant qu'utilisateur. Et donc, je n'ai pas vu, par contre, d'informations sur les batteries de téléphone et outils numériques. Mais cette technologie va se développer à l'avenir. Mais je ne peux pas en dire plus puisqu'elle est trop récente.
Ok, donc on a vu, on en a parlé en cours aujourd'hui, de une des difficultés des solutions technologiques, c'est effectivement leur inscription dans le temps. Et donc on se rend compte effectivement qu'à la fois on fait de nouvelles recherches et en même temps on travaille sur déjà l'existant, comme par exemple les technologies au lithium. En lien toujours avec cette question et en lien avec le cours d'aujourd'hui, toujours Anaïs nous demande, est-ce que l'utilisation, donc si ces batteries au sodium arrivent, des batteries plus écologique, eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas un effet rebond avec une augmentation du coût de l'utilisation, voire de la fabrication des appareils? Est-ce que vous vous sentez répondre à cette question, l'effet rebond ou paradoxe de Jevons dont on a parlé tout à l'heure? Je vous prends un peu à froid, ou à chaud, au cas où. Non, quelqu'un se sent? Ouais, vas-y Martin, comme vous voulez, vas-y Martin, le micro est ouvert.
Je dirais que si on arrive à faire des batteries plus écologiques, je ne pense pas que ça engendrerait un effet rebond. Je dirais que ça pourrait engendrer un effet rebond si on arrive à créer des batteries plus économiques. Je parle au niveau de la production, parce que peut-être que les producteurs pourraient produire encore plus d'outils d'outils numériques, de terminaux, et ça inciterait les gens à en consommer plus. Après, au niveau des batteries plus écologiques, je pense pas, car ça n'inciterait pas à augmenter la production de ces batteries.
Ouais, c'est juste mais effectivement, dans la présentation de Jean, il y avait bien les deux qui étaient combinés, donc on avait aussi des batteries plus économiques. Tu nous as aussi dit que les batteries au sodium seraient plus économiques, et effectivement, ce qui se cachait, je pense, derrière la question d'Anaïs, c'est que tu as bien expliqué, Martin, c'est que si on a des batteries encore plus économiques, par exemple, je sais pas, moi, on pourrait très bien décider que les téléviseurs aussi soient sans fil, j'espère que ça n'existe pas encore. On décide juste pour économiser le fil chez nous, finalement, de mettre une batterie dans des téléviseurs, et donc de renouveler, par exemple, les téléviseurs, et là, on aurait bien un impact indirect et une forme d'effet rebond qui arrive. Tu voulais ajouter quelque chose, tu as la main.
Oui, en fait, ce que je voudrais expliquer, c'est que nous, on a considéré un maintien des productions qu'on fait actuellement. On n'est pas dans l'idée d'une surcroissance grâce à des nouveaux moyens qui ne sont pas néfastes. On est dans une idée de garder le même rythme, mais avec des moyens qui endommagent moins l'environnement. Donc l'effet rebond, il ne serait pas là, parce qu'on aurait la même production avec des moyens plus responsables.
Oui, tout à fait. Mais on a bien vu, ce qu'on a vu encore tout à l'heure justement, c'est que quasiment à chaque fois qu'on a eu cette volonté-là, eh bien en fait, il y a quand même des effets indirects, des effets rebonds qui se sont manifestés. C'était pas la volonté des gens qui avaient développé ces technologies, mais en quelque sorte malgré eux, comme je le disais, quand on augmente par exemple quand on diminue la consommation d'une voiture, eh bien on va avoir tendance du coup à faire une voiture plus lourde, une voiture plus rapide, et quasiment à chaque fois on a réinvesti ces gains-là. Bon, changeons un petit peu de sujet. Maëlle par exemple nous revient sur le fait que la phase de fabrication représente plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, d'une façon générale, c'est donc une part dominante de deux tiers à peu près de l'impact du numérique. Comme également vous l'avez dit et comme on l'a vu, eh bien, la première façon de réduire l'impact du numérique, c'est de diminuer le renouvellement du matériel. Un sujet que vous n'avez pas abordé, donc qu'il soulève, voir si vous avez des éléments là-dessus, c'est le reconditionnement. Est-ce qu'à votre avis, ça nous permet ça permet d'adresser la question? Mathieu, je vois que tu te précipites pour répondre, alors vas-y.
Oui, alors ce qui serait vraiment bénéfique, ce serait de vraiment augmenter la durée de vie de nos appareils. C'est vraiment un levier conséquent pour améliorer les choses. Alors le reconditionnement, c'est une option. Il y a aussi l'option de pouvoir réparer son propre téléphone, ses propres interfaces. C'est le cas de l'entreprise Fairphone, une entreprise donc néerlandaise, qui assure que la fabrication de ces téléphones est réalisée dans des conditions de travail décentes. Et elle offre la possibilité à chaque utilisateur de facilement démonter, facilement réparer soi-même son téléphone. Il livre même un tournevis dans le lot. Et donc, on lutte contre l'obsolescence matérielle ici, mais Fairphone lutte aussi contre l'obsolescence logicielle en proposant des mises à jour à ces modèles les plus anciens et donc inciter chaque utilisateur à garder le plus longtemps possible son appareil dans les meilleures conditions possibles.
Ouais, ouais, tu l'as bien dit, effectivement, faire durer les appareils et réparer, c'est essentiel. Et du coup, de ce point de vue-là, encore une fois, le reconditionnement est aussi décrié parce que, bien sûr, on voit bien que ça part d'une une bonne intention, mais s'il y a reconditionnement, ça veut bien dire qu'il y a renouvellement. Et donc, du coup, quelque part, je vais faciliter mon renouvellement en me disant que derrière, il y a un reconditionnement. Mais quelque part, s'il y a beaucoup moins de renouvellement de matériel, il y a aussi une diminution du reconditionnement. Donc, on voit que le reconditionnement a son rôle à jouer, mais que c'est pas forcément non plus une unique solution. Allez, peut-être pour continuer sur ces notions d'effet indirect, vous avez évoqué la question du canal Seine-Nord, donc une question qui nous touche directement ici à Compiègne, pour lesquelles, question autour de laquelle un certain nombre d'étudiants sont en train de se mobiliser pour essayer de mettre en débat ce projet-là. Vous avez évoqué le fait que ce soit un effet indirect, enfin qui est des liens avec le numérique, notamment par effet indirect, par l'augmentation de la logistique, de la vente de produits. Je ne sais pas si vous vouliez, je souhaitais ressoulever un petit peu ça. Il me semble que c'est un point important, parce que quand on parle de l'impact du numérique, on pense souvent à l'impact direct, c'est-à-dire l'électricité consommée par nos appareils. Vous nous avez parlé là du fait que le matériel avait un impact encore plus important, et peut-être finalement qu'un des impacts les plus importants du numérique, il est encore plus indirect, et finalement c'est peut-être des gros bateaux qui passent avec des gros containers que quelque part qu'on a un peu télécommandé avec nos smartphones à un moment. Je ne sais pas si vous voulez compléter un petit peu là-dessus. Vas-y Clara, je t'en prie.
Du coup, en fait, le projet Canal Seine-Nord Europe, il a un lien indirect avec le numérique, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce que met le projet en avant, c'est vrai que c'est pour avoir des moyens plus pratiques de faire passer de la marchandise pour l'Europe du Nord. Et c'est vrai que c'est un lien quasiment direct avec le numérique, parce que c'est quand même, ça montre aussi quand même qu'on est dans une société de consommation où on a énormément d'exportations dues aux achats en ligne. Et donc c'est vrai que ce canal, il pose beaucoup de controverses, donc notamment même à l'UTC. Et d'ailleurs, il y a une marche qui va se tenir samedi par rapport à ça, parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement d'actualité. Et donc, c'est vrai qu'il y a deux parties, parce qu'il y a beaucoup de rapports, j'aimerais citer Écoterre, qui montre aussi des aspects de ce canal qui ne sont pas forcément très très bien écologiquement parlant. Et pourtant, il y a des études officielles qui ont été faites pour ce projet depuis une dizaine d'années, et qui montrent aussi que ça peut apporter des solutions écologiques. Donc c'est ce projet a beaucoup de controverses, et donc c'est très compliqué de se positionner aussi et de comprendre aussi les enjeux qui se passent derrière ce projet.
Ouais, on en a parlé aujourd'hui. Un des problèmes du solutionnisme, c'est la difficulté d'adresser la complexité, le temps long et l'ensemble des paramètres. Donc c'est un exemple ici, mais c'était intéressant en tout cas que vous le souleviez dans son lien avec le numérique. Vous vouliez parler de matérialité du numérique. Encore une fois, des grosses péniches et des containers. À un moment, nos smartphones sont aussi reliés quelque part à ces éléments-là. On arrive au bout. On a même dépassé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. 1, 2, 3, non ? Je vous salue tous les quatre, on salue les auditeurs et on se donne rendez-vous d'ici un quart d'heure à peu près, 20 minutes, peut-être une demi-heure, pour la deuxième émission consacrée au projet des étudiants WE1 de l'UTC. Et on va parler toujours de web, on parlera de web à chaque fois, et on parlera en relation avec notamment le monde des associations et de la RSE. À tout à l'heure. Au revoir à tous les quatre.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est parti.